Bulle d'histoire. Stéphane Dubreuil.
Wow.
Grande et petite histoire dans l'œil des auteurs de bandes dessinées.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle bulle d'histoire sur Art District Radio. Je suis avec Margot Renard, qui n'est pas une autrice de bande dessinée, mais qui est une autrice à part entière, puisqu'elle est historienne, historienne de l'art, historienne de la bande dessinée et surtout historienne tout court. Bonjour Margot, première question qui ouvre toutes les bulles d'histoire. Qui es-tu ?
Qui je suis ? Alors, comme tu l'as dit, je m'appelle Margot Renard et je suis historienne de l'art. Donc, dans la perspective de notre discussion, il me semble que c'est ce qui est le plus intéressant.
Tout à fait.
J'ai vraiment construit mon parcours entièrement sur l'histoire de l'art. J'ai fait un Master 1, Master 2, recherche histoire de l'art. J'ai fait une thèse de doctorat en histoire de l'art. Mais ce qui caractérise ma recherche, c'est que je me situe vraiment à la croisée entre l'histoire et l'histoire de l'art, ce qui est assez peu banal, on va dire. Et donc, j'essaye, dans ma recherche sur la bande dessinée, d'agréger comme ça la littérature, les apports de la littérature, de l'histoire de l'art.
Quel était ton sujet de thèse ? Est-ce que c'était déjà la bande dessinée ?
Non. Je ne sais pas si on peut dire que j'ai bifurqué, mais moi je suis à l'origine ce qu'on appelle une 19e-miste, c'est-à-dire que je suis spécialiste de l'art du 19e siècle, et j'ai travaillé sur les images du roman national. J'ai travaillé sur la première moitié du 19e siècle, la manière dont à cette époque on a mis en image un premier récit national relativement homogène, c'est-à-dire fondé sur... un geste des héros masculins, une espèce de galerie de grands personnages qui construisent l'histoire de France, généralement des souverains, d'une manière générale, des souverains, des généraux, et la manière dont cette mise en image a en fait permis de fonder tout un imaginaire autour du roman national. Et en fait, ce qu'on sait généralement, c'est que durant la deuxième moitié du 19e siècle, on a homogénéiser et enseigner ce récit national à travers les livres de Lavis, par exemple, qui sont destinés aux enfants. Mais en réalité, ce roman national, il se crée, roman ou récit national, c'est relativement la même chose, il se crée dans la première moitié du 19e siècle.
Alors, je vais faire un parallèle qui a l'air comme ça totalement artificiel, mais qui n'est pas tant que ça. C'est que ce roman national et ses grands héros, ils ont beaucoup été mis en avant par l'édition, tu disais, pour la jeunesse, édition scolaire, mais aussi par les images d'Épinal. Et les images d'Épinal, c'est un petit peu de la bande dessinée primitive. Donc, il y a aussi une translation qui paraît logique. Comment tu t'es intéressé à la bande dessinée et comment tu es passé donc, du 19e au 20e ?
Ce qui m'intéresse d'une manière générale, c'est la narration de l'histoire. La narration de l'histoire, que ce soit par les images, par le texte, tout ce qui est mise en récit, construction aussi artificielle de l'histoire, puisque l'histoire est un concept. Donc, il lui faut du texte, il lui faut des images pour être construite et reçue de la part des spectateurs ou des lecteurs. Ce qui m'intéresse, c'est ça, que ce soit au 19e siècle, au 21e siècle, au 20e siècle. Donc, ça, c'est un fil conducteur. Et puis, en effet, ce qui m'intéressait déjà dans l'art du 19e siècle, c'était justement cette... sérialité qui pouvait se construire, notamment dans les livres illustrés. Les images, en fait, construisent vraiment un récit uniforme, même si c'est toujours dans un rapport un peu de dépendance au texte, mais il y a toujours cette mise en récit qui est vraiment, vraiment fascinante, je trouve. Et en fait, la continuité logique, aujourd'hui, c'est la bande dessinée. Au final, on peut vraiment tracer un trait, je trouve, entre ces époques et entre ces productions.
Alors, quels sont tes champs de recherche dans la bande dessinée ? Tu disais qu'il y a le récit historique dans la bande dessinée. Est-ce que tu peux préciser un peu, parler peut-être d'auteurs, de thèmes, de pistes de recherche ?
Alors, ce qui m'intéresse vraiment au plus haut point dans la production de bande dessinée historique aujourd'hui, c'est la manière dont certains auteurs s'emparent d'outils des historiens pour produire des récits historiques qui sont historiquement fondée, c'est-à-dire qu'ils vont une sorte de quête de vérité, du fait historique réel, et en même temps, ils essayent de dire quelque chose sur l'histoire, et aussi sur la manière dont on écrit l'histoire aujourd'hui, dont elle fait sens aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut actualiser l'histoire dans notre société, quel rapport aussi à tout ce qui est fake news, les fausses nouvelles, voilà, comment on peut aussi réactiver certains récits de l'histoire avec une part d'imaginaire, mais aussi en allant chercher l'effet brut. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment. Évidemment, il n'y a pas pléthore d'auteurs de bande dessinée qui vont chercher de ce côté-là. Donc, on a par exemple Raphaël Messon avec Les damnés de la Commune, qui vraiment fait un travail très, très intéressant. Alors, lui, il n'est pas dessinateur, il est graphiste. Mais il va vraiment chercher du côté d'un récit historique assez malmené, assez silencié en fait pendant très longtemps, le récit de la Commune. Et puis il le réactive et il essaye d'en dire quelque chose pour nous lecteurs aujourd'hui. Florent Groiset, les Yulnoka évidemment, qui ont sorti leur deuxième tome, première partie de l'album Révolution. Il y a également Jean Dittard qui fait vraiment un travail très très intéressant, qui a sorti dernièrement Hashtag J'accuse, mais qui depuis ses premiers albums autour du Sourire des marionnettes, de Florida, travaille vraiment sur ces questions-là, en travaillant aussi la question de l'image. Qu'est-ce qu'une image? Comment on la produit? Comment on la reçoit? Et comment elle se pérennise dans le temps? Voilà, donc ça, ce sont des auteurs qui sont vraiment majeurs pour ma recherche. Et puis, il y a évidemment la collection L'Histoire dessinée de la France, qui est dirigée par Sylvain Venner, l'historien, et dont le premier album a été fait avec Étienne Davodeau. Il y a tout un rapport, en fait, à, encore une fois, au récit national. Tous ces auteurs, en fait, essayent d'aller contre une certaine construction du récit national à travers les héros, à travers des héros masculins, voilà, une certaine image de la France aussi, de l'identité de la France.
Parce qu'il y a un paradoxe pour le chercheur historien qui s'intéresse à cette bande dessinée, et à la bande dessinée en général, c'est que la bande dessinée peut être extrêmement rigoureux sur le plan historique, mais elle a aussi besoin d'un aspect romanesque. C'est aussi, malgré tout le sérieux qu'on peut y amener, c'est aussi un objet de plaisir, un objet de, presque de rêverie, un objet d'évasion. Il y a ce paradoxe-là qui est difficile à détricoter pour l'historien. L'équilibre à respecter entre le romanesque et l'histoire.
Oui, en fait, c'est ça qui est aussi fascinant, c'est que toute cette production de bande dessinée historique, elle fait écho en fait à des réflexions que les historiens ont depuis très longtemps, parce que la discipline de l'histoire est en constante réflexion sur ses fonctionnements. Mais disons depuis 10-20 ans, les historiens réfléchissent vraiment à justement à la part fictive en fait dans le récit historique, à la part d'imaginaire. Comme le dit Sylvain Venner très bien, les historiens inventent toujours en partie. L'histoire est une construction, on y met toujours de soi et on y met toujours aussi de sa propre imagination. Quelle est la part de l'imagination? Quelle est la part du non-fictionnel, du réel? Ça, c'est toujours quelque chose justement de très intéressant et de fascinant, voir où on met la limite, comment on travaille avec ça. Évidemment, la bande dessinée a une part de fiction plus grande, parce que comme tu dis, c'est un objet aussi de divertissement, de plaisir, de rêverie. Mais justement, il est vraiment très intéressant de voir comment les auteurs naviguent avec ça, puisque tous, ils disent qu'ils ne sont pas historiens. Donc, ils font un travail qui est différent, mais qui est aussi une manière de façonner l'histoire, un peu comme une matière plastique, qui est vraiment très intéressante.
Est-ce qu'on peut dire que tous ces auteurs, les auteurs que tu as cités, qui sont quand même donc on va dire la crème de la crème de la bande dessinée historique, à la fois dans la forme et dans le fond, est-ce qu'on peut les qualifier de vulgarisateurs?
Oui, on peut, alors surtout avec une série comme l'Histoire dessinée de la France. Là, on est vraiment dans une optique de vulgariser l'histoire, mais de la vulgariser vraiment dans le sens noble du terme, c'est-à-dire non pas de la dégrader, mais de lui conserver sa complexité, tout en faisant passer une certaine des faits en fait qui peuvent être retenus, et puis une certaine épaisseur qui permet aussi au lecteur de se l'approprier et de réfléchir à ce qu'est l'histoire aussi comme écriture en fait.
parce que l'histoire de France en bande dessinée, donc il y a une bande dessinée, mais il y a aussi à la fin un cahier historique qui est extrêmement copieux, qui même s'il est de très grande qualité, n'est pas accessible au plus grand nombre quand même. Il faut avoir déjà une petite culture historique pour rentrer dans ces cahiers. C'est quelque chose de très différent des bandes dessinées de Jean Dittard ou de Gibras ou de gens comme ça, qui sont des objets romanesques qui se suffisent à eux-mêmes.
Dans la collection de l'histoire dessinée de la France, en effet, il y a cet appendice, on va dire, à la fin, ou cette deuxième partie, parce que les deux parties dessinées et rédigées sont vraiment vues à parts égales. Et cette deuxième partie peut être en effet très copieuse, même si ça dépend des albums. En fait, Sylvain Venner, le directeur de la collection, le dit lui-même qu'il y a vraiment des albums qui peuvent être lus par des enfants, par des collégiens, et puis d'autres albums sont bien plus ardus. Et puis chez Jean Dittard ou chez Gibras, en effet, on a une optique différente qui n'est là le premier but de ces auteurs, ça n'est pas de faire apprendre l'histoire, même s'il y a toujours une composante en réalité pédagogique ou de médiation d'histoire, en tout cas, elle est quand même mineure par rapport à une collection comme l'Histoire dessinée de la France. Ce qui est en fait particulièrement intéressant dans les formes que prennent la bande dessinée historique aujourd'hui, c'est justement cette habitude grandissante de mettre un cahier ou une postface ou une préface ou voilà, un appendice, quel qu'il soit, rédigé. Généralement, on demande à un historien, une historienne, de rédiger ce texte, qui vient des fois clarifier certains faits historiques ou qui vient donner un contrepoint historique au récit dessiné, et puis qui donne aussi une forme de légitimité, ce qui là est un autre sujet, mais tout aussi intéressant.
Donc, on va aussi parler d'histoire de l'art, parce que donc, tu es historienne d'art. Quel est le rapport entretenu par les historiens d'art et la bande dessinée? Est-ce que c'est un rapport intime? Est-ce que c'est de la méfiance? Est-ce que c'est de l'ignorance?
Alors, il y a un rapport de méfiance et d'ignorance. Il y a vraiment très, très peu d'historiens de l'art qui travaillent sur la bande dessinée, que ce soit en France ou à l'étranger, d'ailleurs. Notamment parce que l'histoire de l'art s'est construite sur un mythe qui est celui de l'auteur en génie solitaire. Et ça, c'est vraiment depuis la Renaissance, hein, avec Vasari, qui est considéré comme le premier historien de l'art. La discipline s'est vraiment construite sur cette idée de l'auteur comme génie. Et la bande dessinée, en fait, excède ce mythe. C'est-à-dire que la bande dessinée est par essence collective et qu'elle dépend toute d'une chaîne d'auctorialité. C'est-à-dire qu'on a, un auteur, plusieurs auteurs, on a un décoloriste. Il y a un travail d'éditorialisation qui est très important. Enfin, il y a toute une chaîne d'auteurs comme ça. Et puis, l'histoire de l'art est aussi mal à l'aise, de moins en moins, mais c'est encore compliqué, et mal à l'aise avec tout ce qui est production sérialisée, le multiple, le reproductible. Voilà, tu parlais tout à l'heure de la photographie, mais tout ce qui est gravure imprimée en série et la bande dessinée également. Il y a méfiance. Et puis, il y a méfiance aussi envers toute production suspectée, justement, de vouloir divertir un peu trop ou de vouloir toucher à des publics qui sont des publics considérés comme peu prestigieux, comme les enfants, parce que la bande dessinée a longtemps été produite pour les enfants. Et l'histoire de l'art, qui essaye de se construire depuis longtemps comme discipline à part entière, indépendante de l'histoire, par exemple, a du mal avec cet objet-là.
Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça change, en fait, que l'histoire de l'art considère la bande dessinée comme un art étudiable en tant qu'art par les historiens d'art? Donc toi, tu es un peu pionnière dans cette optique, mais est-ce que tu es toute seule? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui commencent à travailler, qui commencent à réfléchir à ce rapport entre l'art et la bande dessinée?
Non, alors depuis quelques années, il y a... Il y a des travaux qui ont été faits, notamment par Nathalie Heinisch, par exemple, qui est sociologue de l'art, qui a travaillé sur l'artification de la bande dessinée, c'est-à-dire le passage du non-art à l'art. Donc, le passage de la bande dessinée à une production considérée comme mineure, à une production qu'on considère comme un art qui est... digne d'être exposé dans les musées, d'être vendu aussi, d'être vendu sur le marché de l'art, exposé en galerie, etc. Donc ça, c'est vraiment un processus qui est en cours depuis quelques années déjà. Mais à titre d'exemple, au sein du milieu universitaire, en 2022, fin 2022 seulement, est sorti un livre qui s'appelle, je le traduis en français parce qu'il est écrit en anglais, « Voir la bande dessinée à travers l'histoire de l'art, à travers les outils de l'histoire de l'art ». Et c'est un livre qui n'est pas donc le fruit d'auteur français, mais l'auteur de fruit d'auteur anglais. Et donc ça, le fait qu'une publication comme ça sorte juste il y a quelques mois témoigne quand même des difficultés que l'histoire de l'art peut avoir avec cette production.
Mais c'est un bon pas. C'est aussi accompagné énormément par le marché de l'art, parce que les ventes aux enchères notamment font émerger ce qu'on pourrait appeler des grands génies par le prix de leurs planches. Je pense à Hergé, à Bilal, à Gibra, mais aux États-Unis, tous les auteurs de comics américains ont des cotes absolument stratosphériques, totalement inconnues chez nous. Les tout premiers Superman, les tout premiers Batman, les tout premiers Spider-Man se vendent plusieurs centaines de milliers de dollars. Donc il y a aussi ce phénomène, qui est un phénomène marchand, qui va tirer tout ça vers l'art, parce qu'il y a une spéculation et il y a des collectionneurs très importants. L'autre chose dont je voulais te parler, c'est l'historien qui regarde la bande dessinée. La bande dessinée, c'est aussi une source absolument extraordinaire pour comprendre les mentalités, pour comprendre les sociétés. C'est à la croisée de, donc on a dit l'histoire de l'art, mais de l'histoire des mentalités, de l'histoire des représentations. C'est une source très populaire. Je pense à une émission qui passe sur Arte de Patrick Boucheron, qui prend plein d'objets très quotidiens, très banals. Donc je pense au cercueil, au coquetier, enfin sous ce genre de petits objets qui sont à mon avis très, très comparables à ce que peut être la bande dessinée, hein, toute proportion gardée. Donc il y a des historiens qui commencent à s'y intéresser comme une source. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Parce que voilà, moi c'est une chose qui me fascine, on peut comprendre la société en lisant des bandes dessinées, on peut découvrir beaucoup de choses sur la place des femmes, la technologie, enfin, les enfants, les paysages, enfin, tout ça, en dehors de la bande dessinée historique. Est-ce qu'il y a des gens qui travaillent là-dessus? Est-ce que tu en connais? Est-ce que tu en fais partie? Comment ça marche?
Oui, alors ça, c'est quelque chose de très intéressant parce que la majeure partie en fait, de la bibliographie universitaire sur la bande dessinée historique est produite par des historiens qui se sont intéressés en fait, à la bande dessinée historique comme source. Et comme source justement pour comprendre le contexte dans lequel elles ont été produites. Voilà, donc là on a Tristan Marty, on a Paul Choplin par exemple qui travaille vraiment sur la Première Guerre mondiale dans la bande dessinée. Voilà, des thèmes comme cela, la période moderne, la Renaissance dans la bande dessinée, l'Antiquité avec Jules Gallego. Voilà. Donc ça c'est quelque chose en fait de déjà très développé que du coup moi je laisse un peu de côté, mais il est évidemment fascinant de considérer la bande dessinée aussi comme ça, comme un témoignage d'un regard d'une époque sur les époques passées. En fait, c'est ce qu'on appelle, pour employer un mot barbare, un sémiophore, c'est-à-dire que ces bandes dessinées sont des objets qui témoignent d'un certain rapport au temps et à l'histoire à un moment donné dans leur contexte de production. Donc ça, c'est vraiment aussi fascinant d'étudier comment cette production-là, qui justement est longtemps passée sous les radars universitaires en tout cas, peut aussi être considérée comme un témoignage d'un regard sur le passé.
Oui, c'est aussi un témoignage sur le présent, parce que c'est un objet très important dans l'histoire culturelle, l'histoire des mentalités. Je pense à Pascal Horry. Plus Pascal Horry a été mon directeur de maîtrise et de DEA jadis à Nanterre. Et je pense à un de ses premiers livres sur le petit nazi illustré, où là, il ne s'intéressait pas à la bande dessinée en tant que bande dessinée historique, mais en tant que bande dessinée qui racontait à la fois un processus de propagande et en même temps une démonstration de ce qu'était la société à l'époque.
Oui, c'est ça. Là, évidemment, ça excède la bande dessinée historique. Toute la bande dessinée peut témoigner de ce regard sur le passé. Et c'est justement même peut-être encore plus intéressant de regarder les bandes dessinées qui n'ont pas été conçues pour témoigner d'un regard sur le passé, de regarder comment Boule et Bill, par exemple, témoigne d'une certaine des usages de vie d'une certaine classe moyenne qui habite en banlieue pavillonnaire, etc. Ça, c'est vraiment aussi très intéressant.
Attends, ce que je regarde, le temps passe, et moi, j'ai qu'une demi-heure pour parler de tout ça. C'est pas beaucoup, c'est beaucoup, et en même temps, c'est vraiment très, très peu, quoi. Et alors, quels sont tes axes de recherche actuellement ? Sur quoi travailles-tu ?
Alors, je suis en train de j'ai mis en projet un livre. Voilà, justement, j'écris un livre sur la bande dessinée historique. Alors, pas sur toute la bande dessinée historique depuis les origines de la bande dessinée, mais sur celle qui est produite depuis une quinzaine d'années. Alors, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la manière dont les auteurs de bande dessinée utilisent certains outils de l'histoire, comment les historiens aussi s'intéressent à la bande dessinée de plus en plus, de manière plus en plus appuyée ces dernières années. Ce qui m'intéresse aussi, c'est la manière dont les auteurs politisent l'histoire, parce que l'histoire qu'ils produisent en bande dessinée est en fait toujours très politisée, généralement à gauche, mais pas seulement. Évidemment, d'autres collections, comme Ils ont fait l'histoire, qui témoignent de tout autre positionnement chez Glénat. Voilà, j'essaie de regarder aussi cette très forte politisation, idéologisation de la bande dessinée historique. Ce qui m'intéresse également, c'est la manière dont ces auteurs font de la médiation autour de l'histoire. On en parlait aussi, la composante pédagogique. Est-ce que ces bandes dessinées peuvent être vues aussi comme des outils pour apprendre et comprendre l'histoire, utilisées en classe ou pas? Et puis aussi, ce qui est très intéressant à remarquer, c'est que la bande dessinée historique participe énormément du processus de légitimation, justement, de la bande dessinée. Cette année, Benoît Peters est, par exemple, invité comme conférencier au Collège de France. Ça témoigne de quelque chose, d'une entrée de la bande dessinée comme objet légitime d'étude à l'université, mais dans toutes les instances académiques d'une manière générale. Et la bande dessinée, je pense, la bande dessinée historique, les auteurs de bande dessinée historique ne sont pas pour rien non plus dans ce processus, parce que la bande dessinée historique est un des genres les plus lus actuellement.
Pour finir, tu parlais donc de l'usage de la bande dessinée historique dans les collèges. Donc nous, grâce à Case d'Histoire, on avait invité Thierry Lemaire il y a 2 ans maintenant dans la même émission pour en parler. Tu collabores avec ce site. On a beaucoup de profs et de gens qui travaillent dans des centres de documentation qui sont des abonnés à ce site. Et on a régulièrement des mots, des retours de profs d'histoire qui nous expliquent « Ah ben grâce à vous, on a pu raconter l'histoire aux enfants avec des bandes dessinées sérieuses. » Donc c'est aussi quelque chose qui rentre dans l'école et qui est un outil d'apprentissage de l'histoire.
Oui, complètement. Alors les enseignants sont très demandeurs en fait d'outils aussi pour utiliser ces bandes dessinées en classe, parce que, autre phénomène intéressant, il y en a de plus en plus dans les manuels d'histoire géo qu'on utilise au collège et au lycée, mais les enseignants ne sont pas forcément spécifiquement formés à utiliser la bande dessinée en classe. Or, la bande dessinée, on croit que c'est facile à lire, mais pas tant en réalité. Parce que, notamment, il faut quand même savoir maîtriser et le langage de l'écrit et le langage des images. Il faut savoir les maîtriser ensemble. Il faut savoir lire la bande dessinée comme un tout, et pas seulement lire d'abord le texte, et puis ensuite lire l'image. Et puis, au final, il peut y avoir des élèves qui ont du mal à relier les deux, parce que c'est tout simplement une forme de littératie qui s'apprend, en fait. Donc, ça n'est pas si simple, et pour les enseignants, des fois, ça n'est pas si simple à enseigner non plus, parce que, justement, on s'appuie sur un a priori comme quoi la bande dessinée est facile à lire et à étudier. Or, ça n'est pas si vrai. Donc, c'est quelque chose qui est aussi dont les enseignants sont très demandeurs de savoir comment utiliser cette bande dessinée en classe.
Oui, sans compter qu'il faut aussi se pencher sur les conditions de production entre guillemets, de la bande dessinée. J'ai en souvenir une exposition absolument géniale qui s'était tenue au Musée au Parc d'Alésia il y a 6 ans, je pense, qui détricotait le Astérix, non pas pour dire que c'était nul, mais pour essayer de trouver à la fois quelles étaient la prescience de Goscinny en disant « ça, c'est incroyable, la recherche archéologique et historique valide ce que Goscinny propose », et en même temps, il y a tellement de choses qui ne sont pas gauloises que c'était vraiment très intéressant de voir quelle était la part d'invention, puisque maintenant, Astérix est la vérité de l'histoire gauloise pour beaucoup, beaucoup de gens. Ça, c'est quelque chose d'assez fascinant. Et il faut savoir dire aux élèves, non, ils n'avaient pas de caste à cornes et ils ne mangeaient pas de sanglier. Voilà, donc ça, c'est des expositions comme ça qui permettent d'avancer vraiment en la pédagogie de l'histoire avec la bande dessinée. Margot, je te remercie beaucoup, beaucoup de cette demi-heure passée avec moi pour parler d'histoire et de bande dessinée. On se reverra peut-être à la sortie de ton livre, ça serait intéressant.
Avec plaisir.
Donc, au revoir et à bientôt.
Bulle d'histoire. Bulle d'histoire avec Stéphane Dubreuil. Waouh ! Une émission à retrouver le mardi et le samedi à 10h30. Mmh.